Crédit Immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. La chasse à l'homme bat son plein dans la région du lac Tchad après l'attaque meurtrière lancée dimanche par Boko Haram contre une base militaire. Avec cette contre-offensive, N'Djamena veut anéantir, je cite, la capacité de nuisance du groupe armé. Mais le pouvoir tchadien a-t-il les moyens de ses ambitions? Comment mettre un terme à l'insurrection djihadiste? On en débat dans une demi-heure. Mais d'abord, comme chaque matin, vos questions sur l'actualité. La rédaction de RFI et des experts vous répondent. L'interdiction de l'UNRWA par Israël menace le sort de l'aide humanitaire à Gaza. Adam, bonjour.
Bonjour Madame Chantal et bonjour Michel Paul à Jérusalem.
Vous nous appelez de N'Djamena. Ce n'est pas Michel Paul que nous avons en ligne de Jérusalem aujourd'hui, mais Sami Bourlifa. Bonjour Sami.
Bonjour à tous, désolé de vous décevoir.
Vous êtes le correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Adam, vous avez la parole.
En effet, le Parlement israélien a voté une loi qui interdit les activités de l'UNRWA en Israël. Alors, j'ai des questions.
On commence par la première.
Que reproche l'État hébreu à l'agence onusienne ?
Sami.
Alors, que reproche l'État hébreu à l'UNRWA ? Des liens présumés avec le Hamas et même la participation de certains agents de l'UNRWA au massacre du 7 octobre. Sans apporter de preuves concrètes, le gouvernement israélien a déclaré avoir calculé que 10% environ des employés de l'UNRWA, qui en compte 30 000 au total, dont 13 000 rien qu'à Gaza, sont affiliés au Hamas ou au Djihad islamique, donc un autre groupe armé palestinien. En début d'année, ces accusations ont même poussé les plus gros donateurs de l'UNRWA à suspendre leurs contributions, mais faute de preuves solides, on l'a dit, pour appuyer ces allégations, la plupart des donateurs ont depuis repris leur soutien, excepté les États-Unis, principal donateur de l'agence onusienne jusque-là.
Car l'ONU a mené une enquête interne, il y a eu aussi un audit sur le travail de l'UNRWA qui a été confié par l'ONU à l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
Oui, Catherine Colonna a remis son rapport en avril dernier. Ses conclusions pointent certes quelques insuffisances dans le travail de l'UNRWA, mais pas de failles majeures. L'équipe de Catherine Colonna explique n'avoir reçu aucune preuve de la part des Israéliens pour étayer leurs accusations de lien entre l'UNRWA et le Hamas. Mais l'ONU a tout de même, par précaution, annoncé le licenciement de 9 employés de l'UNRWA qui pourraient avoir été impliqués, c'est vrai, dans les attaques du 7 octobre.
Adam, vous avez une autre question ?
À quel point cette décision risque d'aggraver encore plus la situation humanitaire des réfugiés palestiniens ?
Sami, rappelez-nous d'abord les circonstances de la création de l'UNRWA et quel est son rôle ?
Alors, l'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens a été créée en 1949. Elle est à l'époque mise en place pour venir en aide aux Palestiniens considérés comme réfugiés, car ayant quitté de force leur maison, leur ville, leur village situé en Palestine historique devenu territoire israélien à la création de l'État hébreu en 1948. Et depuis, l'UNRWA fournit une aide vitale à ces réfugiés et à leurs descendants, principalement à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et même à l'étranger, puisqu'il y a des Palestiniens qui ont trouvé refuge à l'époque dans les pays voisins, Jordanie, Syrie et Liban. Et donc, à Gaza, l'UNRWA apporte aujourd'hui son aide à 90% des 2 400 000 Gazaouis. À Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée, 800 000 Palestiniens bénéficient de son assistante. Et ces services, bien sûr, ont un coût pour l'année écoulée. Rien que pour l'année écoulée, l'UNRWA a dépensé l'équivalent de quelque 1,5 milliard de dollars pour Gaza et pour la Cisjordanie et Jérusalem Est, 215 millions de dollars.
Et a priori, rien qui s'apparente au terrorisme.
Mais l'objectif réel derrière les attaques israéliennes contre l'UNRWA est de décrédibiliser cette agence onusienne pour reprendre le contrôle des domaines dans lesquels elle intervient, car Israël souhaiterait consolider son pouvoir sur la population de Gaza, explique une source humanitaire sous couvert d'anonymat qu'on a contacté cette semaine. Pour y parvenir, le gouvernement israélien veut privatiser la distribution de l'aide en la confiant à une entreprise entreprise appartenant à un homme d'affaires israélo-américain, GDC pour Global Delivery Company, est une entreprise de logistique qui a déjà livré des armes à Israël dans le passé, poursuit notre même source qui est basée ici à Jérusalem. Et dans le milieu humanitaire, l'inquiétude est très grande aujourd'hui parce que les Israéliens ont prouvé qu'ils n'ont pas à cœur l'intérêt des civils gazaouis. L'aide humanitaire est utilisée comme une arme de guerre et c'est pour cette raison qu'ils souhaitent court-circuiter le travail de l'ONU en criminalisant l'UNRWA, conclut notre source.
Merci Sami Bourkhlifa pour ces précisions. À très bientôt sur l'antenne. Adam, j'espère qu'on a répondu à vos interrogations. Bonne journée à N'Djamena. On reste au Proche-Orient avec le Liban où la guerre avec Israël a déjà fait plus de 2600 morts et quelques 12 000 blessés. Sans chef depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah par l'armée israélienne, le Hezbollah s'est choisi un nouveau secrétaire général, Cher Naïm Kassem, 71 ans. Hubert, bonjour.
Bonjour Madame Chantal, bonjour à tous. Permettez-moi de saluer quelques-uns des fidèles auditeurs appels sur l'actualité, comme Sanone Bourne qui nous écoute à Kélo et Wouteni Pagnim Serge à Pala, tous au sud du Tchad. Et Tchébourka Patrice Palay en Djamena à la capitale.
Eh bien voilà, les messages sont passés. En ligne avec nous, Karim Émile Bitard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et chercheur associé à l'IRIS. Hubert, je vous redonne la parole.
Oui, un mois après la mort d'Hassan Nasrallah, le Hezbollah a choisi son nouveau leader, Naïm Kassem. Et à ce sujet, plusieurs questions. Qui est-il? Quelle est son importance au sein du mouvement?
Alors, Karim Émile Bitard, qui est cher Naïm Kassem?
Alors, Naïm Kassem est depuis déjà 1991, depuis 33 ans, le numéro 2 du parti, le secrétaire général adjoint. Toutefois, ce n'était pas le candidat initialement pressenti pour succéder à Hassan Nasrallah. C'est plutôt un homme de l'ombre, un apparatchik en charge des dossiers politiques. Il n'a pas le même talent pour galvaniser les troupes, pour faire de grands discours. C'est un homme également connu pour ses relations très étroites avec l'Iran. Donc, le lien organique entre l'Iran et le Hezbollah va se maintenir, mais il sera confronté aujourd'hui à d'énormes défis car le Hezbollah a perdu ses moyens de communication, est en situation de désarroi et il faudra beaucoup de temps pour se remettre à flot.
Hubert, vous avez une autre question.
Effectivement, quelle est sa marge de manœuvre pour réorganiser le Hezbollah qui est aujourd'hui très affaibli?
Karim Émile Bitard, ça va être d'autant plus difficile pour Naïm Kassem de réorganiser le Hezbollah que sa première tâche va être tout simplement de rester en vie.
Tout à fait. Hassan Nasrallah a été assassiné et le successeur présumé, son cousin Hachem Safieddine, a également été assassiné par Israël. Donc Naïm Kassem est aujourd'hui menacé, il le sait, et sa marge de manœuvre est assez étroite et elle dépendra énormément de la décision iranienne. Est-ce que l'Iran va vouloir remettre à flot le Hezbollah, continuer à dépenser d'énormes sommes d'argent, à armer ce mouvement pour s'en servir comme d'une dissuasion contre Israël? Ou bien est-ce que dans le cadre d'un accord international avec les États-Unis, avec ses rivaux sur la scène régionale comme l'Arabie Saoudite, l'Iran pourrait être tenté de vouloir se focaliser sur ses enjeux politiques internes? Donc c'est de là que va dépendre la réponse à cette question. Est-ce que le Hezbollah pourra se remettre à connaître une nouvelle vie avec Naïm Kassem à sa tête?
Alors hier, Naïm Kassem a affirmé que son mouvement pouvait continuer la guerre contre Israël pendant des mois, tout en se disant prêt à un cessez-le-feu sous condition. Mais il a ajouté qu'aucun plan sérieux n'était encore sur la table. Comment analysez-vous ce premier discours du nouveau chef du Hezbollah, premier discours après sa nomination?
C'est un discours destiné à montrer que malgré les nombreuses pertes subies, le parti peut encore tenir tête à Israël, surtout si Israël décide de lancer une nouvelle invasion terrestre et de vouloir réoccuper le Liban Sud. Là, ce serait une autre paire de manches, car autant Israël dispose d'une supériorité technologique écrasante et d'un contrôle exclusif de l'espace aérien, autant il sera beaucoup plus difficile de pouvoir occuper les villages du Liban Sud que les combattants du Hezbollah connaissent dans leur moindre moindre recoin. Donc aujourd'hui, une invasion israélienne, si M. Netanyahou a les yeux plus gros que le ventre et poursuit cette fuite en avant, il pourrait s'en mordre les doigts, car cela pourrait paradoxalement finir par relégitimer le Hezbollah, qui pourra à nouveau se présenter comme une force résistant à une occupation étrangère.
Le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a déclaré hier espérer qu'un accord de cessez-le-feu avec Israël soit conclu dans les prochaines heures ou prochains jours, en tout cas avant la présidentielle du 5 novembre, la présidentielle américaine. Est-ce que vous y croyez ?
Je suis assez sceptique car les conditions posées par Israël semblent rédhibitoires. Elles impliqueraient de sérieux abandons de souveraineté pour le Liban. Elles autoriseraient Israël à poursuivre ses violations de l'espace aérien, à pouvoir à tout moment intervenir sur le territoire libanais. Et je pense qu'en fait, les États-Unis ont donné carte blanche à Israël, pas seulement jusqu'aux élections, mais jusqu'à la transition lorsque le 21 janvier, le nouveau ou la nouvelle présidente prendra ses fonctions.
Merci beaucoup Karim Emile Bitar d'avoir répondu à nos questions. Hulbert, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à tous les deux. En RDC, le territoire de Walikale dans le Nord Kivu, menacé par l'avancée des rebelles du M23. Tim, bonjour.
Oui, bonjour Madame Leroux.
Vous nous appelez de Kinshasa. En ligne de Goma, Henri Pacifique Mayala, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes coordinateur du baromètre sécuritaire du Kivu, un projet du groupe d'études sur le Congo et de Human Rights Watch qui cartographie les violences armées dans l'est de la RDC. Tim, c'est à vous, vous avez la parole.
Oui, madame, permettez-moi de démontrer ma sympathie, ma compassion à nos frères de l'est du Congo qui sont abandonnés par ces gouvernements incompétents. Alors, le M23 a lancé une importante offensive dans le Nord Kivu. Les rebelles ont pris plusieurs localités et les FARDC ont envoyé des renforts. Quelle est actuellement la situation sur le terrain ?
Henri Pacifique Mayala.
Alors, merci pour la question. S'il faut parler du front, en tout cas le plus récent, dans le territoire de Walikale, la situation se présente de telle sorte qu'après la reprise de Kalembe, qui était en tout cas la localité charnière verrou avant que tombe la cité de Kinga le samedi passé, le M23 a progressé dans la direction vers Peti, mais jusqu'à ce matin, on signale les Wazalendo qui se positionnent en compagnie des forces spéciales des FARDC autour de la cité de Kinga à Kailing, pratiquement 2 kilomètres au sud-ouest, tandis que les fronts avancés du M23 se trouveraient 18 kilomètres plus loin vers Peti sur l'axe Kashuga-Kalembe. Voilà un peu comment se présente actuellement le front nord, pendant que sur les autres fronts, se signale une accalmie.
Tim, vous aviez une question justement sur Pinga.
Les autorités craignent que le M23 s'empare du village de Pinga. Quelles conséquences une chute de la localité pourrait-elle avoir sur la situation dans l'est du pays ?
Henri Pacifique Mayala, Pinga, est un verrou stratégique, hein, c'est bien ça ?
Alors oui, on dirait ça. Ben, géographiquement, cela offrirait aux rebelles une certaine emprise sur d'autres régions en dehors de territoires déjà sous leur menace. On parlerait de la Tchopo, la province du Maniema qui serait aussi en prise sous une certaine influence, ainsi que le territoire de Kalehe au sud Kivu. Cela signifierait un levier important si jamais on aboutirait à un probable dialogue, tant souhaité par le M23 et toujours non envisagé par la partie congolaise. Une position qui, du reste, demeure légitime pour un pays souverain. Au-delà de ça, la motivation serait aussi l'accès au contrôle des ressources naturelles et au-delà de ce qui paraîtrait être évident, l'accès au carré minier. Il y a un aspect qu'il faut soulever ici, c'est que l'un des facteurs qui a été le plus florissant du côté rwandais, en tout cas sur les récentes décennies, c'est le secteur du tourisme. Et ici, Pinga, dépassé Pinga, nous parlons de la réserve des espèces endémiques au Congo dans la réserve de Kisima-Ikobo, qui peuvent être déplacés de force ou naturellement du côté rwandais et continuer à plus ou moins alimenter les secteurs du tourisme du Rwanda qui soutient la rébellion du M23. Mais... À cela aussi, on pourrait associer les capacités de ravitaillement. Walikale étant un territoire enclavé, Kinga dispose de pistes qui pourraient facilement accorder au M23 les capacités de ravitaillement en hommes, en munitions ou en médicaments.
Donc on comprend bien pourquoi les rebelles essayent de faire tomber Pinga. Henri Pacifique Mayala, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tim, bonne journée à Kinshasa. On va terminer cette première partie d'appel sur l'actualité avec la visite d'État du président français au Maroc, Emmanuel Macron et Mohamed VI à l'heure de la réconciliation. Messi Fidèle, bonjour.
Bonjour Madame Loro, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Lubumbashi. En ligne avec nous, Abdelmalek Alaoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Messi Fidèle, on vous écoute.
D'accord, bonjour Monsieur Malaoui en passant. La visite d'Emmanuel Macron étant terminée hier, en fait, pourquoi Paris et Rabat ont-ils décidé de renouer les liens après plusieurs années de tensions ?
Abdelmalek Alaoui.
Alors, Paris et Rabat ont renoué parce que l'inaction n'était plus une option. Et le choix de la clarté s'est imposé notamment côté français parce qu'il y avait l'impossibilité de poursuivre cette stratégie dite du « en même temps » entre le Maroc et l'Algérie. Elle n'était plus viable. Et donc Paris en a tiré les conséquences, a franchi le pas au cœur de l'été en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, qui est le nœud gordien de la diplomatie marocaine. Et à partir de là, tout est redevenu possible pour non pas écrire un nouveau chapitre, mais un nouveau livre dans les relations franco-marocaines, pour paraphraser le président Macron. L'implication du roi du Maroc, Mohamed VI, est pour beaucoup dans la résolution de ce dossier. Il a certainement su trouver les mots ainsi que les actes pour faire évoluer cette relation franco-marocaine. Et donc, c'est arrivé après quelques années d'une crise sourde, mais il fallait absolument mettre un terme pour pouvoir relier à nouveau cette puissance régionale qu'est le Maroc avec la France, et qu'on puisse retrouver des voies et moyens d'une coopération rénovée.
Mais si vous avez une autre question à poser.
Dernière. Les nombreux accords et contrats signés sont-ils véritablement un gage de la réconciliation entre les deux pays ?
Abdelmalek Alaoui.
À l'image du couple franco-allemand qui a permis d'avoir une base très solide pour l'émergence d'une Europe stable, l'économie, elle est très importante. Mais vu de Rabat, ce n'est pas Sahara en échange de contrats. C'est un partenariat de nouvelle génération. 22 accords stratégiques ont été signés devant le roi Mohamed VI et devant Emmanuel Macron. Les termes de co-entreprise, de co-localisation et de co-développement ont été très utilisés. Le volume total des contrats est de près de 10 milliards d'euros, ce qui est trois fois ce qui a été signé devant le président Sarkozy en 2007, qui constitue le point de référence. Oui, ces accords signés sont le gage d'une réconciliation durable, car l'économie vascularise les relations bilatérales, et en renforçant ce segment, on bétonne la relation et on construit sur des piliers solides, et les questions diplomatiques passent au second plan et se résolvent mieux lorsque l'économie fonctionne bien entre les deux pays.
Mais est-ce que cette réconciliation entre la France et le Maroc se fait sur le dos du droit international ?
Alors ça, c'est une question qui est entre les mains de l'ONU. Côté marocain, on estime que le Sahara est tout à fait marocain. Il y a des arguments historiques, juridiques. Il y a même un jugement de la Cour internationale de 1977 qui reconnaît les liens d'allégeance entre les populations du Sahara et le roi du Maroc. C'est à l'ONU de trancher cette question. C'est entre ses mains. Il y a tout un arsenal pour résoudre la question. Le Maroc attend que l'Algérie veuille bien s'asseoir à la table des négociations, car c'est l'Algérie en réalité qui est la clé de voûte pour la résolution de ce dossier.
Donc Dabal est dans le camp d'Alger, si je vous comprends bien.
Elle a toujours été dans le camp d'Alger. Le rapport de l'ONU doit sortir dans les jours qui viennent. Ils appellent l'Algérie à venir au processus de table ronde et qu'elle vienne négocier, étant la puissance qui finance qui abrite et qui arme le Front Polisario.
Merci beaucoup, Abdelmalek.